Il est 17h30, vous écoutez Radio Campus Paris et vous retrouvez tout de suite petite consultation entre amis.
Petite consultation entre amis, l'émission santé complètement déjantée de Radio Campus Paris.
Bienvenue à toi, cher patient, dans le cabinet de consultation un tout petit peu déjanté de Radio Campus Paris pour une émission spéciale sommeil dans laquelle nous disséquerons l'actualité. On apprendra à faire une micro-sieste. La piqûre de rappel sera consacrée à la première anesthésie générale. Le mot du médecin sera la maladie de la mouche tsetse. L'expression rigolote, ne pas fermer l'œil de la nuit. Et le pire du forum internet, faut-il réveiller un somnambule? Allez, à vos stéthoscopes, la consultation peut commencer.
Docteur, paraît que vous êtes docteur. Parce que malade, paraît que je suis malade.
Ça y est, enfin en direct sur le plateau de Radio Campus Paris avec une très belle brochette comme toutes les semaines. Bonsoir docteur Vaillant, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Ça va très bien, merci.
Ça va très bien, je sors d'une sieste.
Ah, mais
je
oui.
vais bien, je vais bien.
Une émission un peu à dormir debout cette semaine, si je peux me permettre.
Allez, hop, on y va.
Ah, docteur Léo, vous êtes déjà dépité avant même de commencer l'émission.
Oui. Je suis déjà fatigué de vous, docteur Rick.
Ça enchaîne. Et puis notre matinalier préféré, docteur Guillaume.
Bonjour, bonsoir,
c'est le sommet.
Bonsoir, c'est le sommeil.
Eh ben, très bien, avant de s'endormir complètement, on se fait un petit tour de l'actu santé.
Ce soir, docteur Loïc, c'est le grand changement d'heure.
Eh oui, docteur Marion, à 7h. Demain, il sera en fait 8h. Non, enfin à 8h. Après le changement, il sera 7h en réalité. Enfin non, en fait, en réalité, il sera 10h en temps universel.
Au quatrième top, il sera 17h. 18 minutes.
Bon alors comme d'habitude on est complètement perdu sur ce changement d'heure, on perd une heure, on gagne une heure, en fait on ne sait plus très bien.
On ne peut pas tromper une personne 1000 fois. On peut tromper 1000 personnes une fois, 1000 fois, non, non on peut tromper une fois 1000 personnes, Odile. Mais on ne peut pas tromper une fois 1000 personnes.
Alors lequel est le verdict, docteur Louis?
Alors cette nuit, donc dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mars, enfin techniquement le 27 mars, à 2h du matin, nous rajouterons une heure sur nos horloges et il sera donc brutalement 3h du matin. Donc on perd une heure de sommeil. Bon, pour vous repérer, le soleil qui s'est levé ce matin vers 6h40 pointera le bout de son nez à 7h40 demain matin.
Ok, mais alors quel est le principe? Pourquoi on change d'heure en fait?
Alors la raison, elle est essentiellement économique. Alors ça date pas d'aujourd'hui, ça date de 1975 et de cette belle époque Giscard.
Au revoir.
On est en plein choc pétrolier et pour faire des petites économies, on décide de changer d'heure pour moins éclairer et donc réduire la facture d'électricité car il fait jour plus tard.
Ah bon, mais ça marche vraiment?
Bah, en avançant d'une heure, on profite davantage du soleil et donc on allume moins la lumière.
Mais combien? On veut des chiffres!
Alors bon, c'est pas folichon, hein. La fourchette haute pour les non-nyctalopes, les nyctalopes qui sont donc...
Les personnes qui voient la nuit.
Ah, ça va, comme ça commence un peu à rentrer, hein. Je disais donc qu'on est à environ 10 centimes par jour pour une famille, ce qui correspond au coût moyen de 60 minutes d'électricité pour éclairer une maison. En comptant aussi les magasins, les entreprises et l'éclairage public, le changement d'heure ferait économiser 440 gigawatt-heure chaque année selon les calculs de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie.
2,21 gigawatts!
Mais enfin c'est quoi un gigawatt?
Bon, en gros, ça correspond à un an d'éclairage d'une ville de 800 000 habitants telle que Marseille. Alors, ça reste à vérifier car tous les sites n'arrivent pas à ces chiffres-là.
Mais revenons à notre petite santé. C'est quand même pas génial, si?
Non, perdre une heure de sommeil n'est pas ce qu'il y a de plus bénéfique pour la santé. Une étude scientifique publiée en janvier 2015 dans la revue International Journal of Obesity, c'est comme ça que je le dis, docteur Léo?
Bel accent.
Bel accent, merci. A démontré qu'en déréglant le rythme circadien, c'est-à-dire le cycle éveil-sommeil, le changement d'heure peut provoquer l'obésité, le diabète, voire même des maladies inflammatoires. Donc tout ça, c'est pas très réjouissant. Mais il y a comme une bonne nouvelle dans cette histoire. Le soleil se lève plus tôt et on peut davantage en profiter. La lumière naturelle active la sécrétion de cortisol, une hormone qui aide à réguler les fameux rythmes circadiens. Et du coup, la fatigue se fait moins sentir au réveil. De quoi attaquer les journées printanières du bon pied. Voilà, c'est la fin de ces actus. C'est du bon pied, hein, qu'on continue dans notre émission spéciale sommeil. Et donc, docteur Guillaume, la bonne santé, c'est quand on voit votre coiffure. Vous avez une coiffure ahurissante aujourd'hui. Qu'est-ce
qui
se
passe ? Magnifique, ma coiffure. C'est un changement dans ma vie.
Exactement, pour les auditeurs qui ont l'image. Oui. Waouh, ça pique les yeux. Mais en tout cas, c'est pas la thématique, c'est pas vos cheveux,
non.
Mais c'est le sommeil. Cette semaine, et vous allez nous apprendre comment bien faire une bonne sieste.
Attendez, je pose parce que Marion me prend en photo. Alors, ce petit coup de mou que vous ressentez en début d'après-midi, docteur Marion, est tout à fait naturel. Alors, plus d'un Français, 1 sur 3, se dit fatigué après une nuit de sommeil habituelle. Donc, pas étonnant quand on sait que leurs nuits sont de plus en plus courtes. Alors, d'abord, j'aimerais revenir sur le cycle de sommeil qui est divisé en 4 phases. Donc, d'abord, l'endormissement où la respiration devient plus lente, les muscles se relâchent et la conscience diminue. Ensuite, on a le sommeil lent, léger, stade 2. Attention, donc là, le sommeil est lent, léger, comme son nom l'indique, il n'est pas très profond. Et il représente
principe,
exactement.
50% du temps de sommeil total. Il est encore facile de se réveiller à ce moment-là. Un bruit, une lumière suffisent, mais la personne se souvient avoir dormi un petit peu. Puis on a le sommeil lent, profond, stade 3 et 4. Avec tous ces stades, je me perds. Alors là, cette fois-ci, le dormeur est totalement isolé du monde extérieur par le sommeil. Il est difficile de le réveiller durant cette phase et c'est le moment du cycle où on récupère de la fatigue physique accumulée. Et enfin, on termine par le sommeil paradoxal. Donc en fait, il s'appelle paradoxal parce que l'individu présente simultanément des signes de sommeil profond et des signes d'éveil, un peu comme le docteur Marion. On voit le visage présente des expressions, la respiration est irrégulière et l'activité cardiaque.
Donc là, vous pensez qu'elle est en sommeil paradoxal.
Je suis en sommeil paradoxal. Je peux confirmer.
Alors, on va retourner sur le mode d'emploi pour faire l'assiette. Donc attention, il ne suffit pas de s'allonger et donc plonger dans les bras de Morphée au moindre signe de fatigue et fait qu'il vole ici. La sieste doit être courte. Combien de temps à votre avis?
20 minutes.
Ok, je vous l'avais dit de toute façon, ça ne compte pas. À 20 minutes, afin de ne pas entrer dans une phase profonde de sommeil, de ressortir encore plus fatigué, ce qui serait bête, et dans le brouillard qu'auparavant. Alors les siestes longues, par contre, ne sont pas interdites, mais elles ne sont préconisées qu'en cas de manque de sommeil. Donc par exemple, d'une manière curative, si vous avez mal dormi ou peu dormi la nuit d'avant, comme moi, ou en préventif, si vous savez que vous allez vous coucher tard ce soir en faisant la fête et en allant boire beaucoup d'alcool, docteur Marion.
Alors, mais j'en ai ras-le-bol, laissez-moi tranquille.
Coupez le micro de docteur Marion, s'il vous plaît, Étienne.
Donc reste encore à savoir où faire la sieste, justement, et chez vous, évitez le lit, hein, parce qu'il est assimilé à une longue période de sommeil. Et oui, donc allongez-vous plutôt sur le canapé. Hein. La position assise n'est pas mauvaise, mais la tête et les bras doivent être quand même calés, hein, pour éviter que vous tombiez, hein, et que vous vous réveillez. Ce sera embêtant quand même.
Ah oui, ça donc, voilà.
Et au travail, bon, et oui, si vous pouvez faire la sieste au travail, pourquoi pas.
Bah pour ce le serait docteur mieux. Loïc, oui, c'est oui, même oui, son lieu habituel.
Je fais que ça d'ailleurs, je fais que ça.
Et bien, si vous aviez un espace dédié, encore mieux, un tapis de sol pour le faire. Je vous le vois faire sur un tapis de sol.
Oui, je pense que ça peut être très bien.
Totalement. Ça. Donc pour faciliter le sommeil, hein, c'est quand même mieux d'être dans le noir, ne serait-ce que pour la sieste ou pas. La luminosité inhibant la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil, pour ne pas imposer l'obscurité à tout le monde, optez plutôt pour un masque pour les yeux, si vous voulez. Voilà.
Pas mal. Et c'est toujours vrai, docteur Guillaume, que la durée de la sieste équivaut à 3 fois le temps de sommeil gagné.
Toujours, ouais.
Donc c'est-à-dire 20 minutes, c'est comme si on avait gagné une heure de sommeil de nuit.
Ouais. C'est ça.
Pas mal. Hein. Pratique.
Ouais, pratique.
Eh ben allez, avant de faire la sieste, on fait une petite piqûre de rappel.
Maintenant, la suite de nos informations.
Tout aujourd'hui, jeunesse de France.
Mes chers compatriotes,
nous avons fait une perfusion continue des artères coronaires.
Et on écoute Jeunesse de France, une voix qui, j'espère, va pas nous endormir, hein, docteur Léo.
Je ne promets rien.
Voilà, et cette semaine, vous allez nous parler du jour de la première, où a eu lieu la première anesthésie générale. C'était le 20 mars 1842, ça date un peu quand même.
Ça date un peu, effectivement, docteur Loïc. On va parler sommeil très profond et même perte de connaissance. Alors, le 20 mars 1842, c'est la date à laquelle Crawford Long, un médecin américain, anesthésie un patient avec de l'éther pour lui enlever une tumeur dans le cou. Mais on aurait pu remonter bien plus loin et même partir sur d'autres terrains, notamment spirituels, hein, dans la religion chrétienne. Par exemple, Dieu retire à Adam une côte en l'endormant pour créer Ève, ce qui nous renvoie aussi aux origines du trafic d'organes.
Blasphème, docteur Léo, blasphème.
Effectivement. Mais nous n'avons pas vocation à replonger la médecine dans la religion ou dans la magie. Pour autant, ça ne nous empêche pas de faire un petit saut dans le passé. Au final, l'anesthésie est une recherche qui s'étale sur le temps long et qui a avancé, comme souvent en médecine, par tâtonnement. Alors, on a par exemple au XVIe siècle, Ambroise Paré, qui préconisait un petit cocktail opium-alcool fort avant de pratiquer sa chirurgie. Pas pour lui, hein, pour
oui,
ses patients.
Oui, sinon, je vais vous opérer, je vite parce que je m'endors.
C'est fort, c'est bon, on y va. Sinon, on avait Dominique Larré, qui découvre pendant la campagne napoléonienne de Russie que le froid atténue les sensations et la douleur et ampute dès lors toujours dans ces conditions.
Sympa, petit glaçon et clac. Hop, voilà. Ah, ça fait mal quand même.
Voilà, c'est rapide, c'est bon, on n'a rien senti. Et puis vient donc Crawford Long avec son anesthésie par l'éther en 1842. Cependant, il ne partage pas vraiment sa découverte et cela tombe pour quelques années seulement dans l'oubli. Car en 1846, l'idée ressurgit dans un débat où s'oppose pour la paternité de l'invention le chimiste Charles Thomas Jackson et le médecin William Morton. Finalement, le 16 octobre 1846, c'est William Morton et son collègue John Warren qui réalisent la première démonstration d'anesthésie générale officielle en public en faisant respirer un patient un mouchoir d'éther. Vient ensuite le chloroforme, un grand classique des kidnappings au cinéma, puis la morphine, grand classique des stupéfiants, au rang desquels on trouve également la cocaïne qui sera d'ailleurs utilisée comme anesthésiant local et notamment pour la bouche. Mais je ne voudrais pas empiéter sur les thèmes de prédilection du docteur Loïc et de sa supposée hyperactivité chronique. Docteur Loïc, arrêtez. Alors bon,
c'est très moche. C'est très moche.
C'est pire en pire.
C'est interdit ce que vous faites, docteur Loïc. Hein, je vous le rappelle. Donc pendant que vous faites vos bêtises, la drogue c'est mal, on le rappelle. On peut quand même se demander ce qu'est une anesthésie. Alors, parce que finalement, c'est pas seulement un endormissement, mais la combinaison de trois types d'actions qui font interagir des substances différentes. Alors il y a ainsi la narcose, c'est la perte de conscience, l'analgésie, soit la disparition de la douleur, et la curarisation, soit la paralysie du muscle. Pour terminer la piqûre de rappel, on peut se pencher sur une relative nouveauté, c'est l'anesthésie par l'hypnose. Alors c'est pas une blague ni une technique de notre cher charlatan vaudou de Barbès, mais une réalité utilisée par certains hôpitaux français. Alors toutes les opérations ne le permettent pas, a priori on va pas vous remplacer une hanche simplement par hypnose.
En réalité, vos jambes sont lourdes,
vous ne sentez plus la douleur. Non, en réalité, pour l'instant, la technique vient plus en complément. C'est un peu d'anesthésie et un peu d'hypnose. On parle d'hypno-sédation. Mais on ne sait pas de quoi demain fait, et ça, c'est pas la piqûre de rappel de le dire.
Oui, c'est vrai. Merci, docteur Léo. Allez, on enchaîne toujours. Donc, une thématique spéciale sommeil. On enchaîne avec Barbara, les insomnies. Un titre sorti en 75 où la chanteuse mélancolique évoque ses insomnies et à demi-mot sa tentative de suicide. Hein. C'est très joyeux.
Bonne ambiance.
Ah, bonne ambiance.
C'est la fête. Ouais,
allez, ça tombe bien, c'est la fête. Merci, si Barbara. Vous êtes sur eh bien, le 93.9 Radio Campus. Paris.
Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit, je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Avoir tant de yeux qui se ferment, couchés dans leur lit, je finirai par comprendre qu'il faut que je m'endorme aussi. J'en ai connu des grands, des beaux, des bien bâtis, des gentils, qui venaient pour me bercer et combattre mes insomnies. Mais au matin, je les retrouvais endormis dans mon lit, pendant que je veillais seul en combattant mes insomnies. À force de compter les moutons qui sautent dans mon lit, j'ai un immense troupeau qui se promène dans mes nuits. Qu'ils aillent brouter ailleurs, par exemple dans vos prairies, labourage et pâturage ne sont pas mes travaux de nuit. Sans compter les absents qui me reviennent dans mes nuits, j'ai quelquefois des vivants qui me donnent des insomnies. Et je gravis mon calvaire sur les escaliers de la nuit. J'ai déjà connu l'enfer, connaîtrai-je le paradis, ce serait pour moi de m'endormir la nuit. Et je rêve, qu'on a tué mes insomnies, et que pâle en robe blanche, on les a couchés dans un lit. À tant rêver que j'en rêve, les revoilà mes insomnies. Je rôde comme les chats, je glisse comme les souris, et Dieu lui-même ne sait pas ce que je peux faire de mes nuits, mourir ou s'endormir. Ce n'est pas du tout la même chose, pour autant c'est pareillement se coucher les paupières closes. Une longue nuit où je les avais toutes confondues, peu s'en fallut au matin que je ne me réveille plus. Mais au ciel de mon lit, il y avait les pompiers de Paris, au pied de mon lit les adjudants de la gendarmerie. Oh messieurs, dites-moi ce que vous faites là, je vous prie madame, nous sommes là pour veiller sur vos insomnies. En un cortège chagrin viennent mes parents, mes amis, gravement, au nom du Père, du Fils et puis du Saint-Esprit. Si après l'heure, c'est plus l'heure, avant ça ne l'est pas non plus, ce n'est pas l'heure en tout cas, mes grands-mères, s'il est venu, je les vois déjà rire de leur fine plaisanterie. Ceux qui prétendent connaître un remède à mes insomnies, un médecin pour mes nuits, j'y avais pensé moi aussi. Mais c'est contre lui que je couche mes plus belles insomnies. Avoir tant de gens qui dorment mais s'endorment à la nuit, j'aurais fini, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Mais si s'endormir c'est mourir, ah, laissez-moi mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que de dormir en paradis. Si s'endormir c'est mourir, ah, laissez-moi mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que de mourir en paradis.
Et vous écoutez toujours le paradis radiophonique. Petite consultation entre amis, Radio Campus Paris. Et on enchaîne avec les infos qu'il faut.
Quoi de neuf, docteur ?
Alors, quoi de neuf, docteur Marion? Des journées mondiales, 4 journées mondiales.
4 journées mondiales aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fête, c'est les soldes de la journée mondiale.
Alors, non. Une journée qui est en lien avec notre thématique.
Tout à fait. On commence par la journée nationale, pas mondiale, désolé, du sommeil qui aura lieu demain, le 27 mars. Donc, en fait, c'est la journée pour parler de ce qu'on fait un tiers du temps de notre vie. Hein. Voilà. D'ailleurs, que toute l'équipe
fait,
est en train de faire
est,
pendant que je fais ma chronique, c'est génial. Voilà.
20 secondes et tout le monde s'endort. Voilà, c'est incroyable.
Très bien. Alors, avec un petit slogan, les troubles du sommeil ne sont pas une fatalité.
Exactement, docteur Loïc. Et c'est d'ailleurs le but de la journée, puisque peu informés, plus de la moitié des personnes concernées par des troubles du sommeil n'ont jamais parlé de leurs troubles à un professionnel de santé. On rappelle donc à nos auditeurs et à l'ensemble du public que votre premier interlocuteur pour le sommeil, c'est votre médecin traitant et bien sûr aussi pour le reste de votre santé.
Très bien, le 29 mars, alors c'est la journée mondiale, non pas de l'allaitement pour rester dans la thématique, mais de l'allaitement.
De l'allaitement, exactement. Mardi sera la journée mondiale de l'allaitement. Autrefois, il était naturel et inné d'allaiter. Aujourd'hui, l'allaitement maternel fait débat dans nos sociétés. La journée internationale de l'allaitement permet donc de médiatiser le sujet, de rappeler aux femmes et surtout à vous, les hommes autour de la table, les bienfaits de l'allaitement en termes de santé pour les nourrissons. Vous pouvez donc visiter le site de la Lecce League France.
Donc
www.lll3lfrance.org.
Très bien, et donc ensuite, troisième journée, une journée qui va coussi-coussa, c'est la journée mondiale des troubles bipolaires.
Oui,
c'est le 30 mars.
C'est le 30 mars, et donc mercredi, cette journée mondiale semble avoir d'ailleurs bien du mal à faire sa place dans notre environnement médiatique surchargé. La journée consacrée aux troubles bipolaires a été lancée en France en 2014.
Ouh, ça va être génial, je sais pas si ça va être bien cette journée. Non, ça va être vraiment, je sais pas trop.
Voilà, tabou parce que beaucoup de personnes atteintes n'osent pas avouer à leurs proches que leurs émotions sont démesurées. Docteur Loïc, je pense qu'il faut en parler rapidement. Ouais. Voilà, 1 à 2% de la population souffrirait en fait de la forme majeure de la maladie.
Ce qu'on appelle la PMD, la psychose maniaco-dépressive.
Dépressive, exactement. Et donc voilà, je vous invite à, si vous souhaitez, participer à une journée qui a été organisée donc mercredi de 9h à 18h à la MAS 10 rue des Terres aux Curés. Terres aux Curés, parce qu'ils sont là.
Hashtag j'invente des adresses. Hashtag je fais n'importe quoi.
Dans le 13e arrondissement, et vous pouvez retrouver toutes les infos sur www.trouble-bipolaire.org.
Et dernière journée, c'est la journée internationale de la visibilité trans, c'est le 31 mars.
Tout à fait, jeudi, voilà, une journée mondiale qui avoue sans vergogne ses intentions, donner de la visibilité aux personnes transgenres.
Merci pour ces journées mondiales, docteur Marion.
Je vous en prie,
on va continuer à foutre l'air vos chroniques parce qu'on enchaîne avec vous, avec le mot du médecin.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
Et cette semaine, le mot du médecin, c'est la maladie de la mouche tsetse, autant dire la...
Ah bah, c'est vous qui devez le dire.
Ah bah la trypanosomiase. Oui, bah, c'est assez simple.
La trypanosomiase.
Exactement,
voilà.
Tout à fait. Alors qu'est-ce que ça veut bien dire? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette maladie?
Eh bien tout simplement, c'est le nom barbare de la maladie du sommeil. Cette maladie transmise par la célèbre et indétrônable mouche.
Vous pouvez nous en dire un petit peu plus quand même sur cette maladie, j'ai l'impression, docteur Marion.
Avec plaisir, avec grand plaisir. Donc elle est endémique en Afrique subsaharienne, elle est présente dans 36 pays. Voilà, alors cette petite mouche appelée tsetse est particulière par sa couleur brune.
C'est pour ça.
Sa taille importante, puisqu'elle est un peu plus grosse que la moyenne, et le fait qu'elle pique et que ses piqûres soient douloureuses et qu'elle se nourrisse de notre sang et du sang des animaux d'ailleurs. Donc il suffit qu'elle soit porteuse d'un virus et...
Ça fait des chocs à pique.
Alors, mis à part des chocs à pique, ça fait quoi, docteur Mario? J'ai l'impression d'avoir déjà dit cette phrase-là.
Alors, dans certains cas, une forte fièvre et des maux de tête avec de violentes douleurs musculaires. J'ai l'impression que d'ailleurs, c'est le mal de notre réal Étienne qui du coup... engendre des troubles neurologiques et des troubles du sommeil. Hein. On est en plein dedans. Et dans l'autre cas, c'est les mêmes symptômes cumulés à une perte de poids, un gonflement du visage et des ganglions lymphatiques et en plus de ça, des démangeaisons. Et là, par contre, le patient décédera quelques années plus tard.
Hein. Ah bah sympa, dis donc. Bon, grosso modo, il y a quand même quelques solutions, en tout cas des traitements.
Oui, alors il y a des des traitements, oui, un traitement qui se fait en deux phases en fonction de la phase de la maladie. Par contre, ces derniers étant très lourds, les patients rencontrent souvent des effets secondaires. Et d'ailleurs, dans la deuxième phase, on administre un dérivé d'arsenic très efficace, mais qui entraîne lui-même en fait 5% des des patients malades traités. Bref, pas encore de solution miracle, mais il y a quand même un point positif. L'épidémie est en baisse depuis 2009. Actuellement, on compte environ 7000 nouveaux cas par an.
Merci beaucoup, docteur Marion. Donc, la maladie de la mouche tsetse.
La mouche.
La mouche.
La mouche.
La maladie du sommeil. Enchaînons avec notre expression rigolote.
O, D, I, maintenant L, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?
Alors là, c'est l'expression de votre grand-mère qui vous dit
« J'ai pas fermé l'œil de la nuit, hein ?»
Ouais, exactement, donc on va commencer par ça, par ne pas fermer l'œil de la nuit. Alors, en toute simplicité, c'est une expression transparente au possible hein, qui signifie faire une nuit blanche. Mais du coup, avec l'équipe de l'émission, on s'est posé une question. Peut-on finalement dormir les yeux ouverts ? Ce qui reviendrait à dire qu'on pourrait dormir tout en ne fermant pas les yeux de la nuit.
Oui,
ça va loin, ça va très très loin. Voilà, alors le problème, dormir les yeux ouverts, c'est que c'est techniquement difficile. Hein. Pas impossible, mais techniquement difficile, et dans tous les cas, pour pas longtemps. Hein. Si on ferme les yeux pour dormir, c'est qu'il y a une raison. Il s'agit de s'isoler de la lumière, des stimuli extérieurs, humidifier l'œil et reposer le muscle de la paupière. Bon, mais ça reste possible. On a l'exemple du docteur Loïc qui se bave dessus en dormant les yeux ouverts. On vous laisse imaginer
c'est
la
classe.
Scène.
Ouais. C'est très très classe.
Ça, vous avez pas sommeil, docteur Loïc, là ? Si vous pouviez nous épargner ça, ça serait pas mal. Enfin bon, sinon, on a bien trouvé cette habitante du New Jersey qui ne peut plus fermer les yeux après son opération de chirurgie esthétique des paupières. Hein. On lui souhaite bien du courage dans son procès contre son chirurgien. Non, mais j'en ai d'autres, il n'y a pas de souci.
Allez, courage, docteur Léo. Courage. Docteur,
du coup,
vous a quitté.
Voilà. On peut vivre un rêve éveillé, mais on ne peut pas dormir les yeux ouverts. Sinon, à l'opposé de ne pas fermer les yeux la nuit, on a plein d'expressions. Hein. Dormir à poings fermés, en fait, ce sont les nouveau-nés qui dorment souvent les poings fermés. Du coup, on l'utilise par extension pour dire que l'on dort comme un bébé. On a également dormir sur ses deux oreilles, expression assez étrange. Comment peut-on dormir sur ses deux oreilles ? Seul le docteur Loïc le peut avec ses grandes oreilles.
Ça, c'est vrai, ça, je peux le faire. Bon, ça va.
Alors, pour finir, on a ne dormir que d'un œil, soit être à moitié endormi afin de se réveiller au moindre bruit, ce que je conseille à tous, puisqu'il semble avoir un peu de tension dans cette émission. Mais bon, il ne reste que ce n'est pas le cas, à mon sens, de la question forum du jour, je crois.
Ben non, exactement, tout à fait. Et enchaînons avec cette question forum.
Quand je fais pipi, c'est plus jaune que d'habitude.
Et donc cette semaine, vous êtes allé fouiner sur les forums internet, docteur Guillaume. Et alors Vanessa 69 qui nous demande de l'aide, qui dit au secours, et donc qui pose sa question.
Je vais vous lire le message de Vanessa 69. Cela fait plusieurs fois qu'après une soirée arrosée, mon compagnon se lève durant la nuit et urine dans la chambre contre le mur, comme s'il était dans un urinoir. J'ai eu beau crier, essayer de lui faire reprendre la raison, mais rien ne marche. Il continue quand même. Le lendemain, il ne se souvient jamais de rien. Bref, je me demande si cela relève vraiment du somnambulisme et si je devais le réveiller ou pas.
Alors, réponse à Vanessa 69.
Réponse. Alors, Vanessa 69, bonsoir.
Avec 21 R.
Votre compagnon souffre, a priori, de somnambulisme.
De somnambulisme. Et vous souffrez de dyslexie, j'ai l'impression.
Quand est-ce qu'on fait la spéciale dyslexie, d'ailleurs?
Ah oui,
parce que c'est peut-être nécessaire.
Oui, c'est bon, on a fini, on peut reprendre. Alors, on a tendance à imaginer le somnambule, en fait, marchant les bras en avant pour passer d'une pièce à une autre, comme ça. En fait, le comportement des somnambules peut être beaucoup plus complexe que cela. En gros, on peut faire tout ce qu'on fait quand on est en état de veille, c'est-à-dire marcher, mais également manger, téléphoner, conduire, et oui, et même se battre. C'est intéressant. Dans votre cas, votre compagnon, lui, urine. Hein, voilà. Alors, les épisodes de somnambulisme durent en général 5 à 15 minutes, hein, mais peuvent durer près d'une heure. Alors, lorsqu'on dort, nous, notre corps en général donc est paralysé, cela nous empêche de vivre physiquement ce que nous vivons. Eh bien, chez les personnes somnambules, ce phénomène de paralysie ne se produit pas et les muscles restent opérationnels. Alors, la question de faut-il réveiller ou pas
un somnambule ? Oui, c'est ça exactement. Est-ce qu'il faut le réveiller ? Parce qu'on entend toujours, surtout pas.
Mais justement, si on réveille un somnambule, ça sera exactement la même chose que si on réveille quelqu'un qui rêve. En fait.
Oui, donc ça va, ça va pas le tuer.
Votre,
hein.
Voilà, votre compagnon sera sans doute un peu désorienté et sûrement très étonné de se retrouver face au mur en train d'uriner. mais il sera certainement très content que vous lui évitez de saluer une énième fois le mur de la chambre.
C'est vrai.
Voilà. Ça, oui, c'est vrai que ça peut être sympa.
Ça va être sympa, ça évite de refaire la peinture. Alors si vous le croisez, hein, n'hésitez pas, saisissez-le gentiment par le coude et ramenez-le dans le lit.
Ok, voilà.
Facile, finalement.
Merci en tout cas, docteur Guillaume. Et pour une fois, on a le temps de faire quelques brèves de salles d'attente. Ah, allez, ouais. On part tout de suite au Japon. Au Japon, oui. Avec les étudiants en médecine qui sont soumis dorénavant à un nouveau concours.
Ah, un concours de quoi? D'entrée de...
Non, alors c'est dans leurs études, on leur demande de faire un nouveau concours et c'est notamment des futurs chirurgiens.
Résistance au sommeil.
Non, porter des
corps.
Non, pas porter des corps. Ouais, mais pourquoi?
Pourquoi faire? Pourquoi? S'il n'y a plus de brancardier, allez.
Allez, porter des corps.
Non, résister au sommeil. Non,
pas résister au sommeil. Imaginez les chirurgiens, qu'est-ce qu'ils font?
Porter des organes.
Non, pas du tout. Mais alors, docteur Guillaume, vous avez besoin de dormir.
Oui.
Non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont besoin de quoi en fait?
Ouais,
mais en termes de compétences.
La mécanique.
Ouais, mais qu'est-ce qu'on leur demande en fait en termes de compétences? Ouais, d'agilité.
Ils font de la combranche.
Ouais, alors de dextérité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec du papier? Qu'est-ce qu'on peut faire avec du papier?
Ah, des origamis.
Exactement.
Un point pour Léo.
Bien joué. On leur demande de faire effectivement des concours chronométrés de micro origami. C'est des tout petits pliages et également des micro sushis.
Mais pourquoi?
Mais pour s'entraîner
à faire des choses minutieuses.
Exactement, voilà. Tout petit, etc. Ils disent, le sens du test est très positif, était très formateur, témoigne une étudiante. Allez, alors là c'est d'une violence inouïe. Un 44 ans, un homme vierge, du coup a perdu sa virginité, mais du coup il ne pouvait pas la perdre avant. Pourquoi?
Compliqué ça.
Pourquoi il a pas perdu avant?
Ouais.
Parce qu'il a pas...
Mais il avait peur.
Non, c'est pas une question de peur. Non, il avait 44 ans. Non, techniquement, il pouvait pas le faire.
Parce qu'il avait pas son
comme
sexe
Benjamin Button.
Il avait un problème de testicules.
Exactement, c'est pas loin, c'est ça, chose. C'est ça, ouais,
des
tout à fait.
Torsions, non.
Alors c'est
ça a poussé
c'est...
d'un coup.
Waouh, il va falloir s'accrocher.
Waouh.
3-2-1, il va falloir s'accrocher. Alors du coup, cet homme n'avait pas de pénis.
Pas du tout.
Absolument pas. Fait... Et alors je vous lis
cet homme était une femme.
Je vous lis. À 44 ans, l'homme vierge, doté d'un pénis bionique, a perdu sa virginité.
Bionique.
Ah attendez,
j'ai bien ça doit être dangereux.
Tragique accident de voiture à l'âge de 6 ans. Cet Écossais perd son pénis. Ah, et d'accord. Donc grâce à une greffe de peau à partir de la peau de son bras, les chirurgiens réussissent à lui implanter un sexe d'une vingtaine de centimètres.
20 ?
Exactement. Et alors attendez, donc Charlotte Rose
qui est tout le bras.
Attendez, parce que Charlotte Rose qui est une dominatrice sexuelle britannique de 35 ans. Lauréate du prix érotique du sexe de l'année en 2013 décide de lui offrir une nuit en sa compagnie gratuitement et il perd donc sa virginité. Mais c'est tragique parce que la première fois ça n'a pas marché, le pénis bionique, un imprévu a empêché l'un des deux tubes d'enfler correctement du genre, le coup, a reporté sa nuit. Enfin voilà, c'est tragique. Lisez-le, c'est sur
dur,
internet
c'est dur.
En tout cas ça a marché. Voilà, bon bah, c'était la petite brève de salle d'attente. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de Petite Consultation entre amis. Juste après nous on a L'œil à l'écoute qui sont en direct en studio au Fédois.
Bonsoir,
c'est vous êtes exactement, vous êtes fin prêt.
Après générique, c'est Instant Stanois.
Du coup, on vous retrouve juste après. Rappelons que vous pouvez nous retrouver évidemment en podcast sur le site www.radiocampusparis.org. Et à 19h, vous retrouvez Tropical Club.
Vous allez sur la page Facebook,
on vous dit au revoir, etc.
On vous aime,
on vous aime, et on vous dit surtout à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À 18h sur Radio Campus Paris. Bisous,
bon
ciao.
Allez, ciao.